Bonjour et bienvenue dans Apple Différemment. Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour la marque à travers ses produits, ses services et son histoire. Alors bienvenue à Apple Différemment. Bonjour, bienvenue à Apple Différemment. Bonjour Audrey, le podcast du mois d'avril qu'on a failli pas faire. Bonjour, bienvenue à toi.
Salut Matt. Ben écoute, moi je veux dire le podcast, l'épisode précédent, on l'a enregistré le 1er avril.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est le 29 avril. Donc tu vois, on n'est pas trop mal. On essaye de faire au mieux, mais on est là, c'est le principal.
Exact, exact. Et puis, ben, on a une émission qui va être sur le thème du iPod, qui va être sur le thème de l'histoire un peu. On va parler des fondamentaux de la marque. On va parler de toutes sortes de sujets, mais j'aimerais que tu me parles parce que j'ai été vérifier ton flux Twitter et je pense que tu es dans une controverse en ce moment avec du Keyboard Gate. Tu as un problème avec ton clavier sur ton Mac.
Ouais, ben en fait, comme tous les possesseurs de MacBook Pro, je crois, je suis légèrement touchée par le problème de clavier parce que j'utilise, je vais dire, à 98% du temps un clavier Apple externe. Mm-hmm. Parce que j'aime pas trop j'ai jamais trop aimé taper sur un portable à cause de la chaleur et puis j'aime pas ces claviers-là, les touches sont... Enfin bref, c'est pas le clavier que je préfère. Bah ouais, en fait, j'aime pas trop puis ça fait du... C'est un clavier qui est quand même bruyant. Donc parfois, j'ai des touches qui se coincent quand j'utilise. Donc il y a vraiment l'effet des petites poussières qui se mettent sous les touches. Donc actuellement, ça touche énormément de monde. Apple remplace les claviers, mais par les mêmes claviers. Donc en gros, c'est juste pour dire, on a compris qu'il y a un problème, mais on n'a pas vraiment de solution. Et puis ce matin, en fait... Ouais, non mais c'est fou, hein. Je pense qu'il va falloir qu'il s'active. Bon, apparemment... Jonathan Ive a reconnu le problème, donc mais ça touche des milliers de machines, donc ça va durer des années en gros. Et puis ce matin, en nettoyant mon écran avant de partir travailler, je me suis rendu compte que j'avais des marques, des traces en fait, des touches, des claviers sur l'écran.
Bon.
Et j'ai beau nettoyer, après il y a un traitement anti-reflet, donc faut pas frotter trop fort. Et j'ai beau nettoyer, et c'est surtout ma barre espace qui a laissé une belle trace sur l'écran, donc vu les réactions sur Twitter, je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui me disent faut utiliser tel spray ou utiliser telle protection, mais... Enfin, je sais pas, tu vois, quand t'achètes un Mac à 2 500 €, j'ai pas envie de mettre le petit tissu, de faire spécialement... Enfin, de devoir penser aux choses qu'ils ont ratées, quoi. Tu vois, enfin...
Ouais, ouais. Je te comprends, j'ai les mêmes traces dans mon écran. Je savais pas que ça se retirait pas. Alors là, tu me fais de la peine en t'écoutant. Oui. Toi, t'es laquelle génération de MacBook Pro, celui de l'année passée ou l'année d'avant?
Alors moi, c'est un MacBook Pro sans Touch Bar que j'ai acheté en mars 2017.
Ok.
Mais c'est le modèle fin 2016 en fait.
Ok.
Après, j'avais pris l'Apple Care, donc c'est l'extension de garantie jusqu'à 3 ans. Donc en gros, il faut que je règle les problèmes avant, c'est avril 2020. Donc j'attends là, parce qu'en fait aussi quand t'emmènes ton MacBook Pro, c'est quand même assez long pour faire les réparations. Moi j'ai pas d'Apple Store près de chez moi, donc j'ai pas envie de pas avoir de Mac pendant 15 jours quoi. Tu vois, c'est...
Et tu sais que on prend l'habitude maintenant avec les iPads, avec les iPhones, de prendre des Apple Care ou ben de savoir que si on fait tomber son iPhone ou son iPad, ils vont le remplacer, ils vont le réparer ou sa watch. Mais quand j'ai acheté mon Apple Care pour mon MacBook Pro, j'étais surpris de savoir que dans le fond, si je l'échappe, je l'échappe. c'est pour ma pomme, il remplace pas. C'est vraiment juste pour des problèmes... qui dépasserait la garantie de base pour un MacBook Pro ici au Canada.
Et est-ce que tu as le problème de clavier aussi?
Alors moi, j'ai pas de problème de clavier, parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'était la dernière génération de clavier qui avait été créée, mais ils ont quand même, ce que j'ai entendu dans les forums, ils ont quand même toutes sortes de problématiques en même avec ces claviers-là. À voir, mais j'ai comme toi, j'ai la garantie, je vais voir. J'ai pas un souci, moi, encore pour le clavier... qui m'a été rapporté. Par contre, j'ai les traces dans l'écran. Alors, je suis un peu comme...
Alors, Ouais, il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter avec un chiffon microfibre et puis en insistant un peu, ça part. Mais moi, j'ai essayé, ça part pas. Et franchement, le traitement anti-reflet, c'est vraiment un film très hyper fin, quoi, comme une couche de vernis, si tu veux. Donc, faut pas gratter non plus. Enfin, faut pas faire pire que mieux, parce que si Apple voit que t'as gratté ton écran, ils vont dire, bah non, c'est vous qui l'avez abîmé. Tu vois.
Alors donc, je vais voir si ça part plus tard. De toute façon, ça me dérange pas pour le moment, mais ouais, effectivement, comme tu dis, à ce prix-là, bon.
Non mais c'est, franchement, c'est inacceptable. Enfin, c'est pas des PC à 500 euros qu'on achète. On achète des machines, c'est quasiment bah 5 fois plus cher que les PC ou 2000 ou 2500 euros. Enfin, c'est un énorme budget quand même. On se dit, on achète ça pour plusieurs années. Et puis là, moi l'autre jour, chez un client, j'ouvre ma session, je tape mon mot de passe faux, t'aurais vu la tête de mon client. Il se moquait de moi quand il me dit, bah, vous connaissez pas votre mot de passe. Et en fait, c'est la touche la touche shift pour taper les chiffres qui était bloquée. Et ça, je m'en suis rendu compte que quand en rentrant chez moi, en tapant avec mon clavier externe, je me dis, bah attends. Je me disais, c'est bizarre que mon mot de passe passe pas. Mon clavier était bien en français, enfin, tu vois, parce que ça peut arriver que le clavier bascule, mais ouais, là j'ai trouvé ça bizarre. Et c'était la touche shift en fait qui restait bloquée, donc mes chiffres étaient mal tapés, quoi.
Bon, mais, alors ouais. Alors je ne saurais que te conseiller d'acheter un iPad parce que le clavier est intégré, t'auras pas de problème de touche. Et bientôt, selon certaines rumeurs, il se pourrait qu'on ait une souris qui s'intègre dans l'iPad Pro. Alors qui sait, peut-être ça sera ton prochain MacBook iPad, peut-être que.
Ouais, j'ai hâte de voir l'évolution. Je crois que la souris, c'était surtout à des fins d'accessibilité, mais en gros, ça sera donc possible pour tout le monde. Après, je sais pas, tu vois, moi, mes clients qui ont une soixantaine d'années, par exemple, ou un peu plus, ils sont totalement à l'aise sur l'iPad.
Oui.
Mais alors, la souris d'ordinateur, c'est compliqué. Hein. c'est encore quelque chose. Quand je leur dis, là, vous faites un clic droit, ou un... alors, ils me disent... Et du coup, après, ils me demandent tout le temps, un clic gauche ou un clic droit? Ou alors, ils me disent, c'est un simple clic ou un double clic? Tu vois, ça fait... Il y a quand même des gens à qui ça pose problème, alors que l'iPad, bah, utiliser son doigt pour naviguer, c'est facile. Tu vois, j'ai l'impression que ça complexifierait un peu l'usage de l'iPad. Mais bon.
Eh oui. Mais en tout cas, ça va faire partie sûrement d'une évolution, ou en tout cas d'une fonctionnalité qu'on fera. Waouh, c'est incroyable, c'est tellement novateur.
Amazing.
Amazing, exactement. Ben, moi de mon côté, ben le beau temps est arrivé. Alors évidemment, je suis peut-être un petit peu moins assidu, c'est peut-être plus compliqué à faire des créations de podcasts, mais ça fait quand même toujours plaisir de prendre le temps pour faire un Apple différemment. Parle d'Apple différemment. On vous recommande chaudement de nous mettre des 5 étoiles sur iTunes Store, comme l'a fait Elxion avec un commentaire qui dit ceci. C'est un duo parfaitement complémentaire qui anime ce podcast de qualité. Dès les premières minutes d'écoute, j'ai particulièrement apprécié la voix des animateurs, Audrey et sa voix douce et calme, et Matt avec son accent québécois que j'adore. Avec Apple différemment, c'est la diversité des points de vue de la francophonie qui est mise à l'honneur. Je le recommande chaudement. Alors, merci beaucoup. Effectivement, c'est un peu l'idée d'avoir un podcast francophone sur deux continents. Et puis, je pense qu'on est complémentaires, mais quand on discute, Audrey puis moi, on trouve qu'on a beaucoup de points en commun quand même.
Ouais, c'est vrai. Hein. Tu vois, avant l'émission, on parlait plant de tomates. Et voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a des points communs qu'on ignore encore.
Tu vois, on aimait les fruits ensemble, les mêmes fruits. Ben là, ça devrait être les mêmes légumes. Ça va être chouette.
C'est ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde Apple? As-tu retenu certaines actualités, Audrey?
Alors, il y a eu surtout l'histoire des claviers là qui commence vraiment à prendre de l'ampleur.
Ouais, c'est vrai.
Et oui, j'ai vu que tu avais noté que Apple ne facturait plus la migration des données entre un ancien Mac et votre nouveau Mac. Donc alors ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, j'étais surpris parce que je pensais que c'était totalement gratuit, mais il s'avère que ça ne l'était pas, mais qu'il chargeait jamais. En tout cas, les fois où on a eu affaire ici au Québec de faire des transferts, ça a jamais été un tarif payé ou quelque chose qui a été payé. Là. Ça avait été fait par le Genius ou la personne en arrière du comptoir, et puis ça avait bien été. Ben, finalement, je pense que ils ont officialisé le fait que les ingénieurs le faisaient pas payer ou les conseillers le faisaient pas payer. Ils l'ont mis gratuit chez Apple maintenant pour le transfert de données. Je trouve ça bien quand même comme type de service quand t'achètes un Mac de pas avoir à te soucier de transférer les données, et ainsi de suite. Encore faut-il avoir la bonne capacité qui va bien.
Eh ben ouais, mais ça, tu vois, c'est vraiment un... Je pense que les Genius, du coup, vont faire attention à ce qu'ils conseillent encore plus maintenant. Puisque moi, j'avais dit dans un épisode précédent que ça m'arrivait chez une cliente que son stockage était inférieur au modèle de Mac qu'elle avait avant. Donc forcément, là, ben, la migration ne se fait pas, puisque on te dit « Votre nouvel ordinateur n'a pas une capacité de stockage suffisante. Veuillez faire du nettoyage. » Et là, t'es vert, quoi. En gros, c'est... Ouais. Donc non, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Et puis, en fait, ça aurait dû toujours être comme ça.
Ouais, voilà. Mais le service, quand même, quand vous avez la chance d'avoir un Apple Store pas très loin de chez vous, où vous pouvez y aller, n'hésitez pas, il n'y a pas vraiment, moi, j'ai jamais senti de pression pour acheter quoi que ce soit, puis toujours été très aidant les conseillers dans les magasins. Bon, il y a des fois des histoires d'horreur et des exceptions, mais la majorité des temps où j'ai été, moi, j'ai jamais senti de problème, toujours beaucoup d'aide dans les magasins.
C'est vrai.
Toujours dans un petit peu de news au niveau d'Apple, je l'ai relevé parce que ça, pour moi, c'est un signe de santé pour la marque. En tout cas, ça augure bien. Puis on fera peut-être un lien après ça avec le sujet dont on veut parler. Une étude révèle que la base des utilisateurs, en fait, 86% des adolescents américains auraient un iPhone. En fait, c'est une étude qui est faite année après année à travers toutes sortes de clientèles qui révèle, en fait, qui sondent certains jeunes, à savoir quel type d'appareil voudraient-ils avoir ou vont-ils avoir ou veulent-ils avoir dans les prochains jours, mois. Et ça, il se révèle que pour les adolescents américains, trimestre après trimestre, ça n'arrête pas d'augmenter. Les adolescents américains veulent des produits iPhone. La baisse se fait nettement marquer du côté de chez Android. Les adolescents veulent de plus en plus des iPhones versus des Android. Évidemment, on parlera pas de BlackBerry ni de Windows Phone, mais on voit une baisse assez significative dans les 3-4 dernières années là, au niveau de la popularité d'Android au niveau des adolescents. Je sais pas quel signal ça peut donner par rapport à la marque, par rapport au produit. Je trouve que ça fait du sens avec les acquisitions comme Beats pour les écouteurs. Je trouve que ça fait du sens avec des services comme Apple Music. Je trouve que tout ça est en lien peut-être avec plus de la consommation pour les jeunes. Toi, Audrey, est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, qui te surprend? Les adolescents aiment de plus en plus la marque?
Non, ça m'étonne pas parce que franchement, je pense que même nous, quand on était ados, en fait, une marque dans le vent, quoi, en gros, enfin, une marque qui innove, qui fait des trucs cool, quoi. Enfin, Apple, c'est quand même, tu vois, ils ont quand même créé un téléphone où tu peux jouer comme sur une console, où tu peux écouter de la musique, tu peux regarder des films. Enfin, franchement, c'est vraiment l'ordinateur de poche qu'on aime tous avoir sur soi. Donc non, ça m'étonne pas. Et puis ce qui est bien, c'est quand même tu peux aujourd'hui avoir des iPhone 7 ou 6, ouais. Enfin 6S plutôt, à pas trop cher, et ouais. Qui peuvent quand même être assez véloces pour faire ce que t'as besoin. Donc bien sûr, les ados en général s'achètent des iPhones d'occasion. Je pense qu'il y a un trafic pas possible. Moi, quand j'entends, je vois mes neveux et nièces, ah, j'ai récupéré un iPhone 7 de un tel et puis je voulais changer ça. Enfin, c'est un trafic pas possible. Ouais. Et tu te dis, en fait, ils sont hyper heureux quand ils ont un iPhone, quoi. Moi, c'est vrai que mes neveux et nièces, ils ont, enfin, c'est pas moi qui leur offre, hein, mais quand ils peuvent avoir un iPhone, ils prennent un iPhone plutôt qu'un autre, quoi.
Et en lien avec, évidemment, des AirPods, avec une Apple Watch, c'est tout des signes ou des signes extérieurs de richesse. On sait un peu.
De richesse, ouais.
Ouais, c'est ça. Tu sais, on sait un peu quand on est adolescent, l'apparence est ultra important, en tout cas pour certains. Moi, ça l'était. Je voulais avoir le dernier basket à la mode. Je voulais avoir le dernier t-shirt à la mode. Bon, ben, ça fait partie maintenant des habitudes, des usages des adolescents de montrer un peu qu'ils, dans le fond, avec quoi ils consomment des médias, avec quoi ils consomment leur vie numérique. Maintenant, ça fait complètement pleine part de la vie des gens. Alors, qui dit
ado? Oui, vas-y. Quand on était ado, nous, c'était surtout les fringues et les chaussures, en fait. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, je voulais absolument des Converse. J'ai dû emmerder mes parents pendant des mois et j'ai fini par les avoir, mais on n'avait pas trop de gadgets en fait, hein. on n'avait pas grand chose d'informatisé ou de... Bon, on n'est pas si vieux que ça quand même, hein, mais Même il y a... Oui, c'est ça. Moi, j'ai 38, donc en fait, il y a 30 ans de ça, quand on était gamin, c'était surtout surtout les fringues, quoi.
Ouais, il y avait les fringues. Puis moi, tu vois, au niveau technologique, je me souviens, là, en parlant, tu m'y fais penser, ben, les premiers signes technologiques qu'on aimait montrer, ben, moi, j'ai eu les montres calculatrices. Alors ça, on a aimé montrer ça. J'ai eu les premiers Walkman. Après ça, les premiers Walkman Sony jaunes. Je sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient des Sony, des lecteurs de cassettes. Même, ils ont fait aussi les CD, mais ce qui a été populaire, c'est les cassettes. Tu sais, ces grosses boîtes qui étaient immersibles, où tu pouvais écouter tes... Comme si on c'était un besoin d'écouter de la musique sous l'eau, mais en tout cas, bref, c'était un des premiers signes
technologiques. On va reparler des Walkman, parce que, justement, exactement. Par rapport à l'iPod, ça fait écho.
Ben exact, c'était un peu pour ça la transition. Qui dit Walkman dit musique. Ben chez Apple, le premier appareil de mobilité vraiment multimédia qui est apparu, ben c'était l'iPod. Et puis ça va être notre dossier aujourd'hui. Audrey, quand elle m'a parlé il y a quelques instants qu'elle voulait parler de l'iPod, ben en fait elle a dit faut en parler tout de suite. D'un coup qu'ils disparaissent. T'as vraiment la sensation que c'est un produit qui va disparaître, toi, le iPod.
Bah, écoute, l'iPod a 18 ans cette année.
Ouais.
Donc, je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Et en gros, comme le dernier iPod actuellement au catalogue, c'est l'iPod Touch qui n'a pas été mis à jour depuis 2015. Si tu veux, c'est... Attends, pas 2015.
2014, me semble, la dernière.
Juillet 2015, sixième génération. Okay. Donc, ça fait quand même... presque 4 ans. Donc je me dis en gros on se posera les bonnes questions tout à l'heure. On va faire une petite histoire de l'iPod avant ça, mais oui, je crois clairement que c'est un produit qui va soit c'est l'Apple Watch qui va le remplacer quand elle aura plus de capacité. Moi, je me suis dit ça.
Ah, bonne analyse. Ouais, effectivement. Ben dans le fond, c'est...
Je vois pas ce qui pourrait le remplacer sinon, si tu veux. L'iPhone, ça reste quand même cher, et puis il faut un abonnement téléphonique, enfin. Parce que l'iPod aujourd'hui, c'est pour qui, en fait? On va commencer par la fin, mais c'est pas grave. aujourd'hui, un iPod Touch. Donc, en gros, c'est comme un iPhone.
Ouais.
Sauf que, on peut pas téléphoner avec, mais sinon, on peut installer des applications. Enfin, en gros, c'est le même OS, sauf qu'il n'y a pas la partie téléphone.
Mmh.
Et aujourd'hui, si on veut un iPod Touch, il faut quand même, pour 32 gigaoctets de stockage, il faut quand même sortir 239 €. Ou pour 128 gigaoctets de stockage, bah, juste 40 € de plus. Donc, clairement, je pense que plus personne n'achète les 32 gigaoctets. Mais, en fait, l'iPod Touch, aujourd'hui, je dirais qu'il pourrait servir à des enfants qui voudraient écouter de la musique en mettant l'iPod dans leur poche. Parce qu'en gros, les enfants, ils ont des iPads maintenant.
Oui,
franchement,
ben,
vu les prix...
Je pense que certains enfants ont carrément des iPhones sans carte SIM, sans forfait. Ça revient des fois moins cher, ou l'iPhone des parents. C'est ce que je vois un peu dans les petites annonces quand je fouille. Tu vois beaucoup du vieux iPhone qui sont donnés comme des iPods. Je sais pas s'ils sont vraiment tablettes. Je sais pas si c'est... J'ai la sensation, et puis là, je vais peut-être faire de l'agisme, mais j'ai la sensation qu'un iPad, si je me fie à mon entourage, c'est plus pour des vieilles personnes. C'est pas mobile comme un jeune aimerait avoir. Fait que je pense pas. Par contre, je vois bien l'iPod maintenant, d'acheter un iPod pour un amateur de musique qui veut avoir du ARS, parce que ben tous les fichiers audio de Apple sont de bonne qualité, ce qui fait que tu peux quand même penser à avoir un iPod comme média pour diffuser de la musique de haute qualité. Mais c'est vrai que maintenant, avec un iPhone, tu peux déjà tout faire ça. Je sais vraiment pas quel type de public pourrait encore acheter un iPod.
Ben, c'est pour ça que je me suis dit qu'il allait certainement disparaître, parce que 4 ans sans mise à jour... Alors, on a déjà vu pire chez Apple, avec le Mac Mini ou le Mac Pro, mais 4 ans sans mise à jour, je pense qu'ils se disent, bon, on écoule les stocks gentiment.
Ouais.
Et puis... C'est sûr que quand t'es adulte, tu vas t'acheter un iPhone, clairement.
Oui.
Donc ta musique, tout l'aspect audio, tu rentres chez toi, tu le branches sur ton enceinte, ou enfin en gros t'as tout dans ton iPhone, vu les capacités de stockage qu'on a maintenant. Donc et nous en France, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des tablettes. Hein. C'est on n'achète plus d'ordinateur aux enfants, on leur achète un iPad, quoi. Tu vois. Et puis comme l'iPad est à 380 € en entrée de gamme, Bon, bah, c'est le prix d'un iPod Touch, quoi. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, il y a un doute sur son existence. Donc, je me suis dit, on va en parler, parce que ça, c'est quand même un sacré produit qui a révolutionné l'industrie de la musique.
Oui, absolument.
Et donc, le premier iPod a été présenté par Steve Jobs en 2001.
Oui.
Donc, ça fait 18 ans. Mmh. Ça paraît tout près et très loin à la fois. C'est assez bizarre quand on retrace toute l'historique. Donc, il a été présenté comme un baladeur audio MP3 avec un écran.
Mmh.
Et une molette qui tournait. Alors ça, c'était vraiment magique. Puisque, en fait, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que sur l'écran, il y avait un espèce de... C'est comme, en fait, comme un curseur qu'on déplaçait grâce à la molette, on faisait descendre, remonter.
Ouais.
Et, puisque c'était pas tactile, hein. C'était, voilà. On ne touchait pas l'écran. En fait, c'était la molette qui déplaçait cette espèce de sélection. Et du coup, voilà. On pouvait y stocker 1000 chansons. Donc, c'était énorme hein, à l'époque.
Ouais.
Il y avait 5 gigaoctets de stockage. C'était un disque dur assez fin, mais c'était pas de la mémoire flash. Hein, c'était un disque dur. Donc, 1000 chansons à l'époque, c'était beaucoup parce que, pour resituer un peu, on était à l'époque des... Alors, peut-être plus trop les Walkman, mais au moins les lecteurs CD portables. Donc, quand on voulait écouter différents CD, ben, on devait emmener nos CD avec nous.
Oui.
Et ça, voilà, ça te fait rire parce que quand on y repense, c'est quand même un truc de fou. Moi, je me souviens, j'allais au lycée, j'avais mon lecteur CD dans mon sac avec mon casque qui sortait, et puis j'avais 3-4 CD dans mon sac. Et puis, bon, ça marchait avec des piles. Enfin, c'était quand même assez compliqué à utiliser. Donc, on avait au maximum, ben, les 20 chansons ou 10 chansons sur un CD. Donc, si on voulait plus de chansons, il fallait emmener plus de CD. Et pareil pour les cassettes. Donc, les cassettes, c'est quand même un peu plus vieux. Mais en gros, les Walkman, donc, comme tu disais, les Walkman jaunes... Alors, moi, j'ai pas eu un jaune, mais j'ai eu un Walkman Sony quand j'étais gamine, qui était tout gris. Mais pareil, c'était, en fait, ça marchait avec des piles. Donc, on n'avait jamais assez de piles. Quand tu partais 8 heures de route en vacances, là, au bout d'un moment, ça faisait... Voilà, ton chanteur passait en mode chamallow. Et du coup, voilà, parce que tes piles étaient usées, donc ta cassette tournait plus lentement. Et du coup, le rythme n'était plus bon, quoi. Donc, c'était la misère quand on n'avait plus de piles, quoi. C'était la tristesse absolue. On pouvait plus écouter, de musique.
Absolument. Ouais. Et dans le fond, je vais faire mes anecdotes en même temps pour l'iPod parce que c'est le moment d'en parler. Celui qui est reconnu comme le père de l'iPod, c'est Tony Fadell qui avait développé une start-up qui était les premières prémices en fait de l'iPod qui s'appelait Fuse. N'a pas passé la deuxième ronde de financement. Alors, il a essayé de revendre son idée à Real Network. Rappelez-vous, sur Internet, les premiers qui faisaient de la vidéo, c'était Real Network, avant même YouTube, avant même Dailymotion. Il a présenté son idée à Philips. Ça a pas vraiment plus été accepté que ça. Et fin des années 99, début 2000, il a présenté ça à Apple, qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour son idée parce que ils avaient déjà des choses qui bougeaient par rapport à ça et aussi la vente de musique. Ce qui est très drôle, par rapport à ce que tu dis, à transporter la musique, c'est que Fadell, il a été considéré comme le père de l'iPod, comme je le disais, mais avant tout, c'était un DJ amateur qui était complètement fatigué et exaspéré toujours de devoir traîner sa collection de CD quand il y avait des concerts. Alors, c'était parti vraiment de cette problématique-là au niveau de l'iPod.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'époque, pour resituer, hein, parce que on était quand même, on utilisait plein d'appareils différents. Mmh. Donc en 2001, on utilisait, donc on avait, au niveau des Mac, on était sur tout ce qui était iBook, PowerBook. Donc tout ce qui est MacBook Air, MacBook Pro, ça n'existait pas encore. On utilisait des caméscopes numériques quand on avait les moyens. On utilisait des lecteurs DVD, on gravait nos propres DVD avec nos films familiaux. Alors, on en a gravé des DVD hein, avec le mariage de la cousine Joël en 1999. Ah, je te jure. Ouais, non, c'est vrai qu'on en a fait des DVD, des montages avec iMovie et tout. Et en fait, donc, Steve Jobs, quand il présente l'iPod, donc c'est très long, hein, cette keynote. Je vous mets les deux liens, les deux parties de cette présentation dans les notes de l'émission, mais en gros on avait, il présente donc qu'est-ce qu'on fait avec son Mac, donc il présentait tous les appareils qu'on avait autour, tous les logiciels qu'on avait autour, et il voulait vraiment que le Mac devienne le centre multimédia de tous ces produits. Et c'est pour ça qu'il a dit, on aime tous avoir de la musique, on a tous tous envie de se balader sans les cassettes, sans les CD, voilà. Et c'est comme ça que l'iPod serait né. Alors c'est vrai qu'au début l'iPod était quand même très très cher, hein, c'était quasiment $400.
Ouais. Ouais.
Franchement, je pense que c'était vraiment là un signe extérieur de richesse, mais assez important.
Ouais.
Et oui, vas-y.
Et à sa conception, c'est le deuxième produit qui a été designé complètement, principalement par Johnny Ive. Le premier, c'était le G3. Le deuxième, ça a été le iPod. Forte inspiration du côté du design industriel de chez Brown. Ça ressemblerait à un radio transistor Brown T3 de 1958. Mmh. C'est de ça qu'il s'est inspiré. Et quand ils ont fait la conception, il y a une anecdote qu'on connaît, je pense qu'Audrey, tu la connais. Les premiers ingénieurs, les ingénieurs ont présenté des prototypes, le prototype à Steve Jobs en lui disant, ben regarde, c'est ce qu'on a créé de mieux, on a vraiment beaucoup travaillé, on a essayé de le rendre le plus petit possible. Et Jobs n'était pas content de la grosseur. Alors, très calmement, il a pris leur prototype et a trouvé un aquarium et a foutu le prototype dans l'aquarium. En leur disant, bah regardez, il y a des bulles d'air, ça veut dire qu'il y a encore de la place à l'intérieur, faites plus petit. Alors c'est comme ça.
Oh là là, il était terrible.
C'est comme ça qu'on a fait le design le plus petit possible. Puis c'est vraiment dans la keynote, vous allez voir, c'est quelque chose sur lequel il axe beaucoup là, c'est de l'avoir dans sa poche. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, il dit, en gros, avant de présenter. Ce qui est marrant dans cette keynote, c'est que avant de présenter le produit, il met en avant les données techniques, la capacité, la taille. Donc, il dit, ça fait la taille d'un jeu de cartes.
Ouais.
Clairement.
Ouais.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on le voit, il paraît quand même assez épais, mais il y avait quand même un vrai disque dur dedans. Enfin, un disque dur affiné, mais c'était quand même un disque dur, c'était pas de la mémoire flash. Donc, voilà. Il faisait la taille d'un jeu de cartes, il avait une autonomie de 10 heures. Donc, ce qui était quand même énorme par rapport aux piles ou certainement au baladeur MP3 qu'il y avait à l'époque, je sais pas s'il y en avait beaucoup ou si je pense que ça devait déjà exister. Mais voilà, en gros, je pense que c'est grâce à l'iPod que la musique a vraiment subi sa première dématérialisation complète.
Ouais.
Puisqu'on s'est dit, en fait, en 2001, les gens qui achetaient un iPod, ils mettaient la musique qu'ils avaient dans leur CD Tech, quoi. C'était, on importait la musique du CD dans le Mac et le Mac l'envoyait dans l'iPod. Donc on pouvait quand même mettre 100 CD dans un iPod, c'était quand même énorme. Et l'iTunes Store, donc où là on a pu acheter de la musique numérique, ça est arrivé que 2 ans plus tard, en 2003.
Oui, c'est ça.
Et on achetait la musique au morceau, on n'était plus obligé d'acheter un CD complet, un album complet, on pouvait acheter que le morceau qu'on avait envie d'entendre. À partir de ce moment-là, donc après la sortie de l'iTunes Store, donc l'iPod a évolué, il y a eu plusieurs générations. En 2004, ils ont sorti l'iPod mini. Donc lui, c'était que 4 gigaoctets de stockage, mais il était plus abordable. J'ai pas noté le tarif, mais c'était quand même moins cher. Et là, au niveau stockage, ils ont sorti un iPod photo, qui lui permettait la synchronisation des photos. Donc on pouvait regarder ses photos sur l'écran de l'iPod. En 2004 aussi. Et là, on est passé de, il y a eu 30 gigas, 40 gigas, ou 60 gigaoctets de stockage. Donc c'était quand même beaucoup pour l'époque, hein, en 2004. Et je sais pas, Matt, si tu te souviens de l'iPod Shuffle, le tout premier.
Oui, je l'ai vraiment. Ça a été mon premier iPod.
C'est vrai?
Oui.
Ouais, je voulais te demander justement. Tu l'as eu, on le mettait autour du cou, là?
Ouais, exactement. Blanc, c'était caractéristique de ces années-là. La couleur avait été choisie par Johnny Ive et Steve Jobs. Oui, c'était bien. Moi, en fait, j'ai une longue histoire pour les iPods ou pour ces appareils-là, que ce soit le Lyra de RCA, que ce soit des vieux Philips. J'en ai eu beaucoup parce que j'ai commencé beaucoup l'écoute des podcasts grâce à ça. Faut dire aussi que les podcasts, on pouvait commencer à les intégrer dans les iPods. Ça aussi, c'était chouette. Oui, moi, mon premier, c'était celui-là parce que les autres étaient inabordables pour moi à l'époque.
Oui, ben moi en fait c'était l'année d'après, j'ai eu le premier iPod Nano.
Ouais.
Mais juste pour l'iPod Shuffle en fait, donc c'était vraiment comme une clé USB.
Ouais.
Qu'on mettait autour du cou. Il n'avait pas d'écran, contrairement aux iPods précédents, même à l'iPod Mini ou l'iPod Photo. Et c'était le premier iPod surtout à avoir de la mémoire flash. Parce que tous les autres d'avant c'était des petits disques durs, c'était des... là on a passé un cap en fait en termes d'espace du coup, puisque la mémoire flash prenait moins de place qu'un disque dur et était beaucoup plus solide à l'usage, surtout quand on faisait du sport avec ou qu'on trimballait partout. Et ensuite, on a eu l'iPod Nano. Et il y a eu plein d'iPods, en fait. Hein. Quand j'ai fait ça tout à l'heure, l'histoire, là, je me suis dit, mais c'est presque pire que l'iPad. On a eu l'iPod Nano, donc, qui a remplacé l'iPod Mini en 2005. Le vrai changement qu'il y a eu, c'est en 2007, puisque Apple a présenté le premier iPhone.
Oui.
Donc, l'iPod a été un peu précurseur, hein, j'ai envie de dire, de même au niveau de l'usage... c'est un peu le grand frère de l'iPhone. Hein. Si on, ils avaient en 2007, ils avaient quand même 6 ans de recul sur un appareil qu'on avait dans la poche.
Absolument.
Donc je pense que ça a aidé.
Savais-tu qu'il y avait eu un prototype d'iPhone? En fait, il y a eu deux prototypes d'iPhone. L'iPhone avec l'écran tactile complet et l'iPhone avec la fameuse roulette qu'il y avait sur les iPod qui ont été dans les bureaux de Cupertino. Ça a été une quand même assez long où il y a eu ces deux types d'iPhone-là où ils ont hésité sur l'interface qu'on allait avoir, soit une tactile, soit cette fameuse roulette-là. Faut dire que ça allait quand même très, très bien, la roulette-là du iPod. Là. C'est quand même très efficace puis c'était assez novateur par rapport à tout ce qu'on avait eu. On glissait le doigt, on tournait. On n'était pas habitué à ça, contrairement à avant où on appuyait sur des boutons, on enfonçait, on glissait des trucs. Là, c'était vraiment beaucoup plus simple et puis il y avait juste ça, dans le fond, comme interface. C'était quand même novateur.
Ouais, et puis, mais ça m'étonne pas qu'ils aient. Bah, je connaissais pas cette histoire avec les deux prototypes, mais ça m'étonne pas en fait quand on y pense, puisque quand ils ont sorti là le premier iPhone, ils se sont dit, est-ce qu'on va sur du 100% tactile, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Il y avait toujours un vrai clavier. Sur les smartphones de l'époque. Donc là, mais je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Ils ont fait le bon choix.
Avec du recul, c'était une bonne idée.
Ouais, donc en 2007, donc ils ont sorti le premier iPhone et ils ont sorti aussi le premier iPod Touch, donc qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'iPhone en fait. Hein. Donc toujours la seule nuance qu'on avait, c'est qu'on pouvait pas téléphoner avec. Et au fur et à mesure des années, donc l'iPod classique, l'iPod Shuffle et l'iPod Nano ont continué d'évoluer tranquillement. L'iPod classique, donc c'est celui qui offrait le plus de stockage. Hein. Je crois qu'on allait jusqu'à 160 gigaoctets. Enfin ça, pour les mélomanes, c'était génial, quoi. On avait vraiment des bibliothèques énormes de musique.
Avec un beau dos.
De podcasts.
Ouais, c'est ça, avec un beau dos en métal, là, très très beau.
Ouais. Et il y a eu, alors j'ai pas détaillé tous les iPods, mais il y a eu des éditions spéciales U2 pour le groupe de musique. Alors je crois que c'est le seul groupe de musique qui a eu son propre iPod, mais il y a des collectionneurs qui en ont encore. Hein. La gamme est vraiment énorme en fait, il y a eu toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est pour ça que sur Twitter j'avais mis une photo avec des macarons très colorés hier pour vous signaler qu'on allait enregistrer ce soir. Donc voilà, vous verrez le lien avec la photo.
Il y a vous pouvez encore trouver des iPods en vente. Évidemment, ils ont pour la plupart encore ont des problèmes avec la lecture du disque dur parce que c'est un disque dur mécanique. Mais il y a des trousses, vous pouvez trouver sur Internet pour changer le disque dur par un SSD à l'intérieur avec une petite procédure de le démonter, de le remonter avec un SSD puis donner une seconde vie en le fond à votre iPod. Tant qu'à l'ouvrir, changer la batterie aussi, ça ferait du bien, puis il va être complètement neuf.
Ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à faire vivre ce produit qui, au final, c'était quand même un bel investissement. Enfin, c'était pas rien, quoi, d'acheter un iPod, surtout avec des capacités de stockage importantes. Donc, non, je trouve ça vraiment bien, les gens qui bidouillent 10 ans après des trucs, moi, je trouve ça génial.
Ouais.
Et, ouais. Alors, ensuite, alors l'iPod classique a été arrêté en 2014. Et l'iPod Shuffle et l'iPod Nano en 2017. Donc ça fait pas très longtemps. Mais en gros, voilà, il reste, comme on disait au début de cette partie-là, que l'iPod Touch, donc de 6e génération, était là depuis juillet 2015, toujours en vente. Il y a une version Product Red. Alors ça, je sais pas si on en a jamais parlé, mais Apple souvent propose une version Product. Donc c'est la version rouge de ses produits. En fait, c'est une partie de l'argent du produit est reversée à la lutte contre le sida. Donc ça fait quand même pas mal d'argent, je crois, par an. Et c'est bien, ils continuent à faire ça. Je crois qu'ils l'ont fait avec l'iPhone XR.
Il y a eu
Il y a pas une watch.
C'est ce que je me demandais, s'il y avait pas une watch qui avait été raide. Je m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, l'iPod, ça a quand même été un fort succès. Après seulement 5 ans, il y avait 100 millions d'iPods de vendus. C'est quand même assez phénoménal. L'iPod dans le secteur, ça a été un gros impact et aussi au niveau des accessoires parce que il y avait quand même plusieurs formats de iPod, mais on pouvait acheter toutes sortes d'accessoires, de docking et ainsi de suite. Et en quelques années, il y avait à peu près 4000 types d'accessoires que vous pouviez rajouter ou bénéficier pour vos iPods, ce qui est un signe d'un bon écosystème en santé. Quand il y a beaucoup d'accessoiristes qui peuvent compléter votre appareil, c'est quand même une bonne un bon signe en fait de santé. Maintenant les dernières iPod Touch sont sur la fin, mais il y a quand même des deux trois trucs qui sont intéressants. C'est qu'on a une espèce de loop pour pouvoir le tenir, contrairement à iPhone. Je le trouve plus mince. Il a encore gardé le bouton, mais je le trouve plus mince que l'iPhone. Fait que ça peut être quand même quelque chose qu'on peut considérer à acheter dans les mois qui viennent pour un enfant. Mais c'est sûr que pour un premier usage, pour vous, si vous avez déjà un téléphone, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de lien à acheter ça.
Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire surtout, c'est que l'iPod, ça a vraiment été un phénomène de société. Oui.
Qui a pas
encore été détrôné par les AirPods, mais je pense que ça va venir. Mais en gros, ça a été l'époque des publicités hyper colorées, où on voyait juste une silhouette noire, on reconnaissait immédiatement que c'était des pubs pour les iPods. Il y a eu le groupe Black Eyed Peas qui avait fait un énorme succès avec leur tube, je chanterai pas, hein. je sais plus exactement, mais en gros je l'ai en tête la chanson là, et en fait ça a été dans le monde entier, on voyait ces pubs immenses là, 4 mètres par 3, partout à la télé, enfin je crois qu'en fait il y avait même pas de slogan, il y avait juste la musique, une animation, donc une sur fond coloré avec une silhouette noire qui dansait, et puis juste iPod quoi, enfin et en fait ça a été un très très beau succès pour Apple, hein, autant que l'iMac, et je crois qu'ils en ont pas eu, enfin si avec l'iPhone bien sûr, mais je trouve au niveau de la symbolique, c'était vraiment le produit branché quoi, le produit qu'il fallait avoir. Ah t'as un iPod, t'as trop de la chance. Et en plus ça voulait dire qu'il fallait que t'aies un Mac avec, parce que les iPods au départ n'étaient pas connectés en Wi-Fi, enfin on connectait en FireWire au Mac, le tout premier c'était du FireWire en plus. Et dans la présentation, Steve Jobs, il justifie mais presque trop le choix du FireWire en disant que c'est t'importes un CD en 10 secondes, enfin par rapport à l'USB.
Ouais.
Et c'est vrai que tous les Mac à l'époque avaient des ports FireWire, donc c'était très très utilisé. Mais c'était vraiment un énorme phénomène de société. Et puis quand j'ai retracé un peu cette historique, je me suis dit qu'il y a eu des idées, des tailles, des poids, des capacités. Enfin, ça a été assez énorme comme gamme quoi, ça a été vraiment une gamme qui a été travaillée dans tous les sens quoi. Je crois que quand on pense à l'iPod Nano qui était, est-ce que tu te souviens de celui-là, c'était juste un carré,
oui,
avec un écran tactile en fait. Donc ça c'était en 2010, ça fait pas si longtemps. Et en fait c'était le premier iPod, un tout petit iPod tactile quoi. C'était assez assez intéressant.
Ouais, effectivement, ça a été quand même un produit tellement fort que ça a été le début des Apple Store avec les iPods. Il y avait pas des iPhones à l'époque là, c'était vraiment on allait en magasin pour aller choisir son iPod. Mais en tout cas, moi le premier magasin que j'ai été, puis dans les premiers qu'il y a eu de toute façon, c'était pas loin de la 5e avenue à New York. On avait des Mac, des iMac et puis des iPods. Effectivement, faut aussi nommer tous les artistes qui ont eu une popularité fulgurante, tout simplement parce qu'ils étaient dans les annonces, les publicités d'Apple. Ça aussi, il y a beaucoup d'artistes qui ont été mis de l'avant juste par les publicités de iPod. Oui, ça a été franchement un phénomène de société. Puis, comme tu disais, c'était du génie de faire une publicité avec des silhouettes tout en noir et de faire des écouteurs blancs. Parce qu'à l'époque, tout était noir ou gris. Alors, quand Apple est arrivé avec ses écouteurs blancs, c'était vraiment un signe distinctif du produit. J'ai mon fils a encore un petit en couleur, je pense que c'est le Nano, mais non, on n'a plus d'autres traces de iPod à la maison, malheureusement. J'ai eu des touches, mais tout a disparu. Il reste plus qu'un petit Nano à la maison. Toi, est-ce qu'il t'en reste encore ou...
Alors, ben justement, je me demandais, je crois qu'il me reste un je crois que c'est un anneau aussi, gris, mais malheureusement, l'écran est THS, alors il devait dater de... Il était pas tout jeune, celui-là. Ouais, 2006-2007. C'est la deuxième génération, et mais l'écran était fait des lignes, en fait, donc okay. Bon, c'est normal au bout de tout ce temps. Mais ouais, mais moi j'ai eu donc le, je crois que j'en ai eu que deux. Je crois que j'ai eu un iPod Shuffle aussi que j'avais revendu. Enfin, en gros, c'était pas... les tout petits. Ce qui était bien avec les petits iPods, les Shuffle, les Nano, c'est que c'était pas très cher, quoi. C'était $100, 100 €, et par rapport au gros iPod que là, c'était vraiment le gros truc qu'on s'achetait. Mais quand on était ado ou jeune adulte, c'est clair qu'on n'avait pas trop les moyens, donc on s'achetait des nanos ou des shuffles, ouais. Quoi. C'était
juste pour montrer les écouteurs. De toute façon, on mettait le iPod dans la poche. Alors les gens, ils savaient pas qu'on n'avait pas le gros, on avait le petit shuffle, puis c'était pareil.
Mais je me souviens même dans les, à la télé et tout, dès que tu voyais quelqu'un avec les écouteurs blancs, ouais. C'est vrai que là, c'est vrai, comme tu dis, tous les écouteurs étaient noirs, quoi. Sony, c'était écouteurs noirs, et puis Apple fait du blanc. Voilà. C'est, des fois, ça tient pas à grand chose, hein. Je trouve ça dingue.
D'être distinctif à ce point-là. Ah, ben, c'est cool. Ouais. Bon tour d'horizon du iPod. Alors, au moins, on l'aura fait pendant que le produit existe encore. Peut-être que l'année prochaine, ça sera complètement fini au niveau du iPod. Dites-nous, hein. Peut-être qu'on sait pas des cas d'usage du iPod qui peuvent être intéressants. Mais clairement, quand on le compare à un iPhone, même à un vieux iPhone, c'est difficile maintenant, même que le processeur est vieillissant, l'écran c'est encore un bouton sans Touch ID, même pas de Touch ID, même pas de Face ID. Alors c'est pour dire à quel point la technologie a pas été mise à jour.
2015 quoi.
Ouais. Bon ben c'est cool, merci beaucoup. Moi je voulais souhaiter un anniversaire aujourd'hui, en fait au mois d'avril. Ça fait maintenant 40 ans que Bill Atkinson a créé, en fait a été embauché par Apple. Il a été embauché par Apple à la fin des années 78 et il a été réellement, il a vraiment rejoint le groupe activement en 1979. Est-ce que tu, je sais déjà la réponse, mais je vais le faire pour le besoin de, tu connais Bill Atkinson, Audrey?
Alors, je dois avouer que j'ai des énormes lacunes sur l'histoire d'Apple. Donc, tu vois, là aussi, tu tombes bien parce que, j'ai honte de le dire, mais non, je connais pas. Vu ce que tu m'as dit sur lui, j'ai honte de le dire maintenant que je connais pas ce monsieur.
Ben, Bill Atkinson, mine de rien, c'est quand même le père de l'interface graphique qu'on connaît maintenant. Et j'ai même pas peur de dire que l'interface graphique au niveau de Windows aussi, il y a des concepts qu'on utilise encore aujourd'hui, plus de 40 ans après les débuts de ça. J'ai trouvé un site qui est fait en pied, comment tu disais, en point de croix. Ça s'appelle le site folklore.org. Ça répertorie à peu près toutes les grandes histoires, les grands noms de l'histoire de l'informatique, notamment surtout d'Apple. Et puis évidemment, il y a l'histoire de Bill Atkinson. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'était un étudiant qui avait été remarqué par un ami de Steve Jobs et qui avait été, poussé à aller rencontrer Steve Jobs. Et très jeune, son père avait payé ses études. Son père croyait vraiment qu'il allait faire de la grande recherche au niveau de recherche avancée au niveau informatique. Et finalement, il a décidé d'aller du côté obscur de la force, d'aller chez Apple, qui était pour l'époque une petite start-up qui commençait. Un de ses amis avait dit, viens voir, viens essayer. Puis Bill voulait pas rien savoir d'aller... et lui, il voulait finir ses études, voulait pas rien savoir d'aller dans la Silicon Valley travailler pour une petite start-up, pas risquer de tout perdre, ça lui tentait pas. Et son ami a dit, juste un rendez-vous, juste un week-end, sans aucune condition. Et finalement, il a envoyé un billet aller-retour et il a été voir Steve Jobs. Steve Jobs à l'époque, où qui avait pas la grosse entreprise. Et Steve Jobs avait passé toute la journée à essayer de lui vendre l'idée de venir travailler pour lui. Puis à un moment donné, à la fin de la journée, il a dit... ce qu'il a déjà dit à Scully, ce qu'il a dit, en fait, tous les écrits ou les littératures qu'on peut lire sur Steve Jobs, il aime beaucoup parler de changer le monde. Hein, c'est une personne qui aime motiver, qui aime que les gens embarquent dans son délire, en fait. Et ce qu'il avait dit à l'époque à Bill Atkinson, c'est « Il y a un décalage entre le moment où quelque chose est inventé et celui où il est disponible pour le public. Si vous voulez changer le monde, vous devez être en avance sur ce décalage. Venez chez Apple où vous pourrez inventer l'avenir et changer la vie de millions de personnes. Eh bien, cette phrase-là, dans le cas de Bill Atkinson, vous croyez pas si bien dire parce que c'est le père du système d'exploitation macOS. C'est un des personnes, une des personnes majeures en fait dans la création du système d'exploitation macOS et de plusieurs concepts qui, quand j'ai lu l'article au complet, sont assez comprends pour acquis maintenant, mais c'est vrai, à l'époque, fallait tout créer. Je vous ai mis dans les notes de l'émission le lien, car Bill Atkinson était un photographe. Il aimait beaucoup la photographie et à l'époque, il n'y avait pas des imprimés écrans, il n'y avait pas des choses comme ça pour garder l'histoire un peu de ses créations. Et Bill Atkinson a créé avec d'autres personnes, mais c'était le principal. La personne principale par rapport à ce projet-là, macOS, qu'on connaît maintenant de macOS. Et dans l'article, il a pris, à partir du début du projet jusqu'à la fin du projet, des polaroïdes des interfaces. Il photographiait l'avancée de ses travaux par rapport à l'évolution de macOS. Et chaque polaroïd, vous allez pouvoir voir en bas, à la main, il écrivait à quelle étape où il en est rendu, qu'est-ce qu'il avait photographié là, quelle était l'avancée la plus importante par rapport à ça. Alors, vous allez voir plusieurs photos, notamment qu'il a fallu commencer à tout simplement à inventer des polices de caractère. Vous voyez ces photos-là, des couleurs, des formes et ainsi de suite, des tons de gris parce que les premiers écrans pouvaient pas être en couleur, ils pouvaient être simplement en 2, 3, 4, 5 couleurs, mais ce qui était le moins cher, c'était des tons de gris. Alors, vous allez voir toutes sortes de palettes de tons de gris. Alors, dites-vous que si vous connaissez un peu DOS, quand vous écrivez, vous savez, c'est les vieux terminaux écrits en noir sur blanc, Audrey, là, où c'est juste du texte. Dites-vous qu'il est parti de ça pour faire une interface graphique. Alors, vous voyez un peu le cheminement dans tout cet article-là. Vous voyez aussi les capacités, les dimensions qu'ont été fixées au début, dimensions d'écran qui ont été fixées dès le départ, du 720 lignes par 360, du 720 colonnes par 360 lignes, la résolution en 1979, des tons de gris, des concepts hallucinants qu'on prend pour acquis maintenant, mais tout simplement le sélectionner du texte. Vous allez voir comment il a commencé à penser qu'il fallait peut-être sélectionner du texte avec un curseur. Vous allez voir aussi qu'il a fait une visite. C'est la visite chez Xerox qui lui a donné l'idée de on pourrait peut-être utiliser une souris tout simplement avec un pointeur sélectionner, déplacer des fenêtres avec la souris en 1979 dans l'article. C'est vraiment vraiment bien fait. Et tout ça pour des barres de défilement. Vous voyez, les premières barres de défilement étaient à gauche pour Bill Atkinson. Après ça, ils ont été à droite. Juste redimensionner des fenêtres aussi, ça a été tout un périple dans ça. De la création des icônes. Mais avant de créer des icônes, faut avoir un outil pour dessiner sur un ordinateur. Alors, vous voyez le cheminement de ça. Vous voyez aussi les menus. macOS, les menus au début étaient en bas. Puis finalement, il y a eu la barre de menu tout en haut, vous voyez, celle que vous connaissez, là, qui commence par la pomme. On vous expliquera aussi pourquoi il y a la pomme à gauche dans tous les menus dans cet article-là. C'est vraiment assez hallucinant. C'est très drôle de lire qu'il décide de faire des menus avec des coins arrondis, parce que arrondi, c'est plus élégant. Et c'est pour ça le lien avec Steve Jobs, parce que Steve Jobs aimait pas les coins carrés, il voulait des coins arrondis lui aussi. Fait que vous voyez un peu la philosophie de toute la compagnie, de Bill Atkinson. Vous voyez aussi les premières icônes qui ont été créées par, Audrey me le disait, par Suzanne Kerr. Les premières poubelles, les premières petites bombes, tout ça. Vous voyez les premières interfaces d'icônes. Bref, c'est un article phénoménal. Le site, c'est de l'anthologie. Faut connaître ce site-là. Et puis là, c'est vraiment l'origine de l'interface graphique avec des preuves visuelles à l'appui, du texte normal, du texte en gras, tout simplement des choses qu'on prend pour acquis maintenant.
Ben oui, c'est fou parce qu'il parle des fenêtres pop-up, des raccourcis clavier aussi, avec des clics secondaires. Là, j'hallucine quand même de ta trouvaille là. Attends, j'en ai vu un. Ah oui, il disait par exemple les boîtes de dialogue.
Oui,
forcément, puisque pour pouvoir saisir quelque chose, faut qu'on ait de la place pour écrire. Les dossiers où tu fusionnais deux dossiers en un. Bon, et ça, sur macOS, dans le Finder, ça fait pas longtemps. Genre les onglets, ça fait pas longtemps qu'on les a.
C'est vrai.
Et ça avait déjà été pensé il y a longtemps. Hein. Comme quoi. Après, je pense qu'ils ont, même s'ils avaient trouvé plein d'idées, je pense qu'ils ont simplifié quand même. Parce qu'après, c'est infini, quoi. Le gars, j'ai l'impression, c'est une machine. On l'arrête plus là.
Mais le gars,
quand je vois tout ce qu'il a fait là, ouais.
C'est un génie. Et ben, Steve Jobs a quitté dans les années mi-80 Apple. Bill Atkinson est un bon ami de Steve Jobs. Il a décidé lui aussi de quitter sous le règne de John Sculley, a fondé des compagnies en lien de proche et de loin avec des interfaces mobiles. C'était dans les premières interfaces qui ont été créées, c'était encore par Bill Atkinson, et vers la fin de sa carrière, a créé certaines interfaces de reconnaissance vocale. Alors, pour dire à quel point ce gars est un visionnaire au niveau des interfaces homme-machine, je vous recommande chaudement d'aller voir le site folklore.org, folklore.org. Il y a toutes sortes d'anecdotes et avec des documents d'époque. Ah, c'est ça qui est vraiment chouette. Bill Atkinson, vous allez voir sa première carte employée avec photo. plastifié. Vous allez voir ses premières interfaces. Bref, beaucoup, beaucoup d'informations vraiment chouettes si vous aimez la marque ou si vous aimez l'histoire de l'informatique.
Et pour revenir juste sur Susan Kerr, alors j'étais en train de regarder justement, elle a fait des typos, mais elle a surtout fait des icônes, et c'est vraiment il y a des affiches maintenant qui sont vendues avec ces icônes, franchement, allez voir, parce que en fait c'est vraiment que des gros pixels, mais elle a réussi à... Ça a vraiment marqué notre temps, je trouve. J'essaye de vous trouver un... Voilà. Juste...
C'est quand même fabuleux, pareil, parce que les concepts que tu vois de Bill Atkinson d'il y a 40 ans sont encore là. Il y a rien vraiment qui a été une révolution dans les interfaces depuis ça. Tu sais... Je me souviens Windows 8 où il y a eu quand même des choses novatrices qui ont été apportées pour les interfaces, mais ça a pas du tout duré. Windows 10 est arrivé. Bref, une anthologie, cet article-là, et je vous le recommande chaudement. Et là, as-tu trouvé les créations de Susan Kerr, Audrey?
Ouais, voilà, je te les ai mis dans la note là. On fait en direct, hein, comme ça. on était tellement bien préparés pour cet épisode, c'est fou. Bon, j'espère qu'on va bien s'en sortir. Mais alors globalement, tu sais, il y a la petite montre qui disait, l'ordinateur nous disait attends, je travaille. Donc t'avais la petite montre, t'avais l'icône du Macintosh, donc celui-là qui est hyper connu. Le petit chien, je me souviens, je crois que c'était lui qui cherchait. Alors je veux pas dire de bêtises, mais est-ce que c'est pas lui à qui on demandait d'aller chercher... Je confonds avec Lycos. Je sais plus.
Je me souviens plus. Ouais. Okay.
Lycos. Non, mais tu sais, ouais, ça m'a marqué, ça. La petite bombe, donc ça, c'est quand ton ordinateur, il allait planter. Donc, je l'ai connu sur macOS 8. T'avais une petite bombe qui apparaissait, et en gros, c'était « au revoir ». Et ton ordi, il s'éteignait. C'était kernel panique, tu vois. C'était ce qu'on a à peu près maintenant avec quand on a du texte sur fond noir. Là, c'est à peu près la même chose. Et en gros, voilà, la corbeille, la petite main, en fait, pour déplacer au lieu de la souris. Et en fait, quand tu regardes, on les mettra sur le site, ces icônes. Mais en fait, quand tu regardes, c'est vraiment que des gros pixels mis les uns à côté des autres. Et c'est la base de l'interface graphique aussi, quoi. Moi, je suis très fan de toutes ces vieilles icônes là. Je trouve ça vraiment super beau, et en fait, ça a pas vieilli, quoi.
Non, parce que il y a encore des gros concepts qui sont similaires là. Exemple dans Finder et ainsi de suite, c'est des icônes qui perdurent. Et je trouve ça chouette, hein, au niveau d'Apple, de continuer à garder cette histoire là des icônes.
Ouais. Attends, juste un pour finir. Je sais pas si vous savez l'icône du Macintosh, donc qui souriait.
Oui.
A été repris pour l'icône de Face ID, en hommage, en fait, à Susan Kerr. Je vous mettrai l'image aussi, là, je l'ai mis dans la note, et en fait, c'est un petit clin d'œil, un petit remerciement à cette dame qui a créé toutes ces icônes.
On va passer à la partie qu'on aime bien, toi et moi, qui nous touche. La pensée, on va la garder pour après. Tout ce qui est l'axe technologie, écologie, en fait, toi puis moi, ça nous tient à cœur. J'ai retenu un article de Mac Forever qui, en fait, une étude sur le streaming qui ne serait pas très bon pour l'environnement. Des chercheurs ont mis... ils ont analysé le streaming de toute l'industrie de musicale versus l'industrie à l'époque versus l'industrie maintenant. Et au niveau des gaz à effet de serre versus à l'époque versus maintenant, c'est juste effarant ce que ça consomme de gaz à effet de serre en termes de stockage, de transmission de fichiers musicaux, et ainsi de suite. Je sais pas si on est content d'avoir des Apple TV+, d'avoir des Apple Music+, pas des Music+, mais des Apple Music, d'avoir tous ces services de streaming, mais une chose est claire, pour ce qui est des gaz à effet de serre, juste aux États-Unis, ça expédie entre 200 et 350 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre
de CO2, oui.
Ouais, de CO2 dans l'environnement. En parallèle, juste en 2000, toute l'industrie musicale, ils ont fait les proportions, hein. Si on prend les disques, si on prend le plastique, si on prend l'emballage, ainsi de suite, ça a consommé 157 millions, alors que maintenant, c'est juste 350 millions, juste aux États-Unis, le streaming, versus 157 millions dans le temps où c'était au plus haut de l'époque, probablement, de la consommation musicale, dans les années 2000. C'est juste effarant de se rendre compte que, ben, finalement, on pense qu'on améliore certaines choses, mais en bout de ligne, on les empire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Audrey?
Ouais, c'est ça. En fait, tant que... Alors après, ce qui est rassurant, c'est quand même que tous les gros acteurs du numérique aujourd'hui, Apple, Google, Amazon aussi, je crois, se mettent au moins à l'électricité verte, ou du moins leurs centres de stockage sont de plus en plus verts. Donc ça, c'est une bonne... De toute façon, je pense que ça, à un moment, ça va être obligatoire. Après, Netflix, par exemple, avait été pas mal critiqué, oui. Puisqu'en gros, on disait que ça tournait... Enfin, que leur serveur tournait au charbon... Enfin, c'était vulgairement expliqué comme ça, mais c'est sûr que, enfin, je veux dire, même en France, on achète de l'électricité qui vient d'Allemagne, qui est produite à base de charbon, alors qu'on dit qu'on fait de l'électricité verte. Enfin, en gros, c'est un business assez énorme. Et c'est vrai que même si Apple a des fermes solaires aux États-Unis, ben, il faut quand même que ça soit que ça transite via des serveurs par chez nous, qui sont pas forcément verts. Donc ça m'étonne pas, en fait, mais c'est obligé, parce que entre la disponibilité, les stockages de malades qu'il faut, enfin, ouais, c'est sûr. Et puis on consomme de plus en plus du streaming, quoi. Surtout pour la vidéo. Encore, ouais. L'audio, ben, c'est sûr que c'est... Là, je sais pas s'il compte... Est-ce que c'est que pour la musique?
Oui, en fait, là, c'était pour le streaming, pour l'article parlait juste de musique.
Ah d'accord, donc ça veut dire que pour la vidéo, c'est 10 fois pire, quoi, parce que...
Ben avec le 4K...
Si tous les soirs, on...
Ouais, c'est ça.
Ben oui, c'est ça. Et puis on regarde tous des séries et des films sur Netflix. Ouais. Bon, ben, de toute façon, c'est... L'évolution n'a pas forcément toujours des bons côtés, mais... Maintenant, en fait, comme on a conscience de cette pollution, on peut plus dire, on savait pas, tu vois, même les grands acteurs du numérique, ils peuvent pas dire, on n'était pas au courant. Tu vois, il y a un moment, je pense qu'ils vont... Enfin, forcément, on est dans la mauvaise période, là, en fait. J'espère que la prochaine génération, tout aura été fait d'ici là pour que eux soient le moins pollués possible, quoi. Donc, on est la génération, ben voilà, on franchit un pas, quoi.
Pour finir cette partie écologique, technologique, sur une note positive, il y a eu un communiqué de presse d'Apple dernièrement qui nous disait que Apple avait atteint ses objectifs d'énergie propre par rapport à ses fournisseurs. Évidemment, il y a un programme d'Apple pour forcer ses fournisseurs à être alimentés de 100% d'énergie complètement propre. Là, la portée, la cible a été dépassée un an même avant leurs espoirs. Alors, ils sont vraiment contents. Leur ferme de développement de gigawatts d'énergie renouvelable a aussi été dépassée. Ils dépassent en ce moment à Apple les cibles qui se sont fixées. Alors, ils en refont d'autres, un peu plus un petit peu plus ambitieuses. Ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais, par rapport à à d'autres fournisseurs. On vous disait dans d'autres épisodes que ben à Apple, au niveau de iMessage, au niveau de certains services qui étaient complètement à énergie verte, d'autres vont l'être aussi au fur et à mesure du temps. Tout n'était pas vert chez Apple, mais il tendait à l'être, comme Google, comme Amazon. Mais la bonne nouvelle, c'est que ben Google fait affaire avec des fournisseurs, et les fournisseurs ben, commencent à dépasser les cibles fixées par Apple. Alors, j'avais la mauvaise nouvelle, mais j'ai la bonne après à côté, comme de quoi qu'on s'améliore quand même, malgré le fait que ben on consomme avec des on a des nouveaux moyens de consommation qui sont finalement beaucoup plus polluants. Et ce qui est dangereux par rapport à ça, c'est qu'on la voit moins, la pollution, mais pourtant elle est 10 fois pire, 20 fois pire. C'est ça qui est un peu le danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Apple force certains objectifs à ses fournisseurs et il dépasse ces atteintes là. Alors ça, c'est vraiment chouette quand même.
Et après, est-ce que tu avais vu aussi, ils avaient parlé cette semaine de que tout ce qui était le stockage iCloud, en fait, était stocké chez Amazon.
OK.
Alors, quand j'ai appris ça, j'ai fait « What ?» C'est quoi ce... Enfin, franchement, je ne savais pas du tout. Et en gros, Apple fait une facture de... Enfin, paye 30 millions d'euros, enfin 30 millions de dollars par mois à Amazon pour le stockage de nos données iCloud. Et alors, tu m'avais dit qu'ils construisaient des services de stockage, des serveurs de... Enfin, des fermes de stockage au Canada. Mmh. Donc, est-ce que ça va remplacer... Enfin, je sais pas du tout, mais moi, je pensais vraiment qu'Apple... Enfin, je suis un peu un peu rêveuse des fois. Je pensais que Apple stockait tout chez elle, quoi, en fait.
Non.
Et en fait, non. Comme tu disais, il y a des services qui sont pas encore verts, mais iCloud, c'est quand même une grosse partie du service.
Oui, effectivement. Bon, alors, il y a plusieurs trucs là-dedans. Si on le découpe par service, il y a des services qui sont complètement verts, qui pour lesquels ils font attention. Il y a le stockage d'iCloud. Alors, le stockage d'iCloud, ça comprend quoi? Ça vous comprend vos backups, vos sauvegardes, ça comprend vos photos, ça comprend toutes sortes de trucs qui ne sont pas forcément verts, effectivement. Toutefois, si on regarde Amazon, AWS, la partie cloud, la partie service, elle développe de plus en plus des énergies renouvelables. Ils sont à 2 data centers maintenant au Canada, 2 énormes data centers. Il faut comprendre que quand AWS crée un data center dans une ville, il y a de la redondance. C'est pas juste un data center, c'est pas juste un local. C'est une grosse ville, c'est énorme. Alors ici au Canada, on a la chance d'être, en tous les cas au Québec, d'avoir de l'énergie renouvelable. Alors le nouveau data center d'Amazon est ici et va être l'autre est à Vancouver, si je ne m'abuse. Ils ont aussi des partenariats avec Google. Hein. Google aussi est un gros joueur. Mais sache toutefois que dans le cloud, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, quand vous prenez toutes les compagnies cloud ensemble réunies, elles ne arrivent pas à la cheville d'Amazon, qui est le plus grand, tout simplement. Alors, je suis vraiment pas surpris. Netflix est complètement sur AWS. Il y a beaucoup de services qui sont chez Amazon. On peut pas faire vraiment une cloud sans à jour toucher de près ou de loin à AWS. Mais par contre, ils ont aussi ces notions-là d'avoir de l'énergie verte chez AWS, notamment aussi pour le stockage.
Ouais, ouais, bah, tant mieux. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait, ça va aller qu'en s'améliorant.
Oui, oui. Alors, qui dit amélioration dit des petites réflexions. T'avais une petite pensée du jour, pour, en fait, une pensée du mois, que tu avais mis dans les notes, Audrey.
Donc, la petite phrase que j'avais notée, c'était « La simplicité est une complexité résolue ». Et donc, c'est un sculpteur, Constantin Brancusi. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas tout neuf, hein. C'était un élève de Rodin et j'ai beaucoup aimé. Donc il a créé, enfin cette citation lui revient, hein, la simplicité une complexité résolue. Et en fait il a également dit, alors ça c'est presque la phrase que je préfère. Un jour il a claqué la porte de l'atelier de Rodin, il en avait marre et il a dit il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle image. Parce qu'en gros, parfois, les gens se sentent tellement grands qu'ils laissent pas les autres grandir, s'épanouir. Et du coup, ils ne poussent rien à l'ombre des grands arbres. Je trouvais que c'était vraiment une très belle phrase. Et puis, ben, globalement, même dans la vie de tous les jours, quand on réfléchit à un problème et qu'au final, on trouve une solution simple, ou qu'on se dit « Ah, ben en fait, j'avais un problème, j'en ai parlé, il y a une personne qui m'a résumé très simplement ce qui n'allait pas », et ben c'est là où on fait des pas, en fait, dans la vie. Je sais pas si tu connaissais cette phrase, et puis si elle te parle, ou si...
Oui, ben, oui, moi j'avais la La simplicité est toujours preuve de bon goût. C'est un peu c'est moins bien dit que toi, mais oui, c'est, et puis d'ailleurs, j'ai toujours peur des gens face à un problème complexe qu'ont des solutions simples. Parce que ça se peut pas, ça faut vraiment beaucoup de travail, et puis faut comprendre que faut comprendre la complexité pour la simplifier, c'est énormément de travail. C'est pas donné à tout le monde de faire des interfaces simples, c'est pas donné à tout le monde de faire des produits simples. On le voit, hein, vous avez juste à aller dans le domaine de l'automobile, regardez les interfaces de merde qu'on peut avoir dans les autos. Je suis désolé, mais c'est vraiment ouais, incroyable. Je lisais dernièrement que les gens, selon certaines études, les manufacturiers sont fâchés parce que les gens, ils aiment ça, Apple Car, ils aiment beaucoup ça, Apple Car, et aiment beaucoup ces interfaces simples-là, et les manufacturiers sont étonnés. Alors, tu vois, quand c'est simple, les gens, généralement, y adhèrent. Et quand c'est simple aussi, les gens se sentent peu ou moins stupides aussi. Fait que ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là.
Oui, et puis pour des gens comme toi ou moi qui écrivons, toi, t'as écrit ton livre sur l'école du podcast, et puis moi, des articles ou des livres, souvent, on a quelque chose à expliquer. Et des fois, il y a des phrases... Moi, en fait, je tape tout le temps un premier G. Ouais. Et quand je relis, je me dis non, c'est trop compliqué. Et un jour, quelqu'un m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, quand tu n'arrives pas à écrire quelque chose simplement, dis-le à voix haute. Et en fait, quand tu expliques, quand tu veux expliquer une fonction ou quelque chose où c'est un peu plus complexe que d'habitude, tu le dis à voix haute, comme si tu l'expliquais à quelqu'un en face de toi. Et du coup, tu as la phrase que tu veux écrire. Et ça aide beaucoup quand on écrit de se relire à voix haute, et puis quand on n'arrive pas à formuler une phrase, de vraiment la dire comme si on n'y avait pas pensé plus que ça. Et ça sort tout seul, en fait, et c'est une bonne technique pour simplifier ce qu'on écrit, parce que déjà, bon, quand on écrit dans des choses techniques ou de l'informatique, il faut être le plus clair possible et le plus simple possible. D'ailleurs, moi, je trouve que je suis beaucoup plus clair quand j'écris que quand je parle. Voilà, ce sera la phrase du jour. Je suis plus clair quand j'écris que quand je parle. La leçon du jour, voilà.
Non, c'est très clair. D'avoir un esprit d'être capable de synthétiser des idées, des concepts. C'est complexe et c'est pas donné à tout le monde. Je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi quand on écrit, oui effectivement, il y a quelques trucs là-dedans. Tu sais, des fois il y a des trucs aussi simples que un verbe, une phrase. Des fois ça peut être juste simplement ça.
Une action, une phrase.
Ouais. Exact. Pour écrire, pour être compris. C'est ça qui est important, et être compris aussi au niveau des produits, au niveau des interfaces, au niveau des services. Et si on veut te comprendre et discuter avec toi, échanger, quel est le meilleur moyen pour te joindre, Audrey?
Alors, vous pouvez me joindre sur Twitter, c'est là que vous me trouverez le plus souvent, @AudreyCoulot. Bien sûr, vous avez le Twitter de l'émission, @AppleDiff, AppleDiff. Ou bien sûr, vous pouvez venir nous suivre. Et puis, alors, on ne tweete pas beaucoup, mais on échange pas mal avec nos followers. Donc, rejoignez-nous. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur audreycoulot.com. Et toi, Matt, on te retrouve où?
Sur profduweb.com, vous allez trouver tous les liens. Comme dit Audrey, en tout cas, pour ma part, je ne tweete pas beaucoup parce que le beau temps arrive. Et je me consacre à l'astre que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est le soleil. Et je suis vraiment content de le revoir.
Et à la moto.
Tu peux le dire. Oui, absolument, oui. D'ailleurs, j'ai commencé aujourd'hui la moto pour faire l'émission. Alors, pour dire, il faisait en dessous de zéro. C'est pas très chaud pour la pompe à l'eau, comme on dit.
La neige commence à fondre quand même.
Exactement. Audrey, petit mot aussi sur tes vidéos que tu as fait dernièrement. Tu as fait beaucoup de vidéos pour les gens qui auraient besoin de créer, en fait, de se connecter leur vieille adresse email, leur vieille adresse de courriel sur iPhone. J'ai trouvé ça super intéressant comme suite. C'est beaucoup de didacticiel pour des gens qui voudraient lire finalement leur courriel sur leur iPad, leur iPhone.
Oui, en fait, j'ai commencé une série de vidéos sur la configuration des boîtes mail de différentes messageries, c'est-à-dire, alors en France, hein, enfin, c'est pas... Bien sûr, il y a tout ce qui est préconfiguré sur l'iPhone ou l'iPad, c'est Google, Yahoo, AOL, etc. Mais en France, on a beaucoup de gens qui utilisent des services de leurs emails Orange, La Poste, il y a GMX, c'est le nouveau Caramel, mais c'est encore utilisé même par des jeunes aujourd'hui. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo pour type de messagerie. Donc là, j'ai encore quelques vidéos à faire. Il faut que je trouve des comptes et des accès parce que je n'ai pas des comptes partout. Pour faire une démonstration dans la vidéo, il faut bien sûr créer des comptes. Mais globalement, ouais, je pense que c'est important que les gens sachent configurer leur messagerie et consulter leur mail dans l'application mail d'Apple qui est très bien faite. Et enfin, moi, que je trouve très bien. Et en sachant que chaque type de messagerie a des paramètres différents, les serveurs d'envoi et de réception sont différents pour chaque type de messagerie. Donc voilà. Oui, c'est vrai que j'ai fait quatre ou cinq vidéos la semaine dernière, donc j'ai fait une petite pause là, mais je vais m'y remettre dès cette semaine.
Et puis petit truc des enregistrements en arrière. En fait, de ce qu'on fait en arrière, moi, je fais souvent le ménage, je détruis beaucoup de trucs, beaucoup de textes et ainsi de suite. Et j'ai détruit des textes qui appartenaient à Audrey. Alors, Audrey, s'en est pas laissée abattre. Elle a décidé de faire un article pour protéger son travail d'écriture, thèse, roman, cours. Alors, si ça vous intéresse, comment protéger vos textes d'écriture, Audrey vous a fait ça aussi sur audreycoulot.com. Merci énormément pour tout ce que tu fais pour la communauté, Audrey. C'est vraiment apprécié. Il y a beaucoup de tes guides que je suis. Il y a des choses que j'apprends tout le temps dans tes vidéos. N'hésitez pas à aller voir et faire un petit don sur le site d'Audrey Coulot. On vous souhaite un très bon début de mois de mai. On vous souhaite un très bon début de saison d'été. Et on se revoit assurément d'ici à la fin du mois de mai. On va faire tout pour avoir un Apple Diff à chaque mois. On vous souhaite un très bon mois de mai. Salut, ciao, ciao.
À bientôt. Salut. Hey.